Nous allons commencer ce meeting de lutte ouvrière qui s'inscrit dans notre campagne électorale, celle de notre campagne électorale pour faire entendre le camp des travailleurs à travers la candidature d'une communiste, Nathalie Arthaud. Donc je vais présenter les deux autres membres de la tribune. Donc Michel Campagnac, enseignant à Besançon, et qui sera le candidat suppléant dans la circonscription d'Argenteuil-Besançon aux élections législatives de juin prochain, où partout dans le pays, il y aura des candidats de lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Et donc moi-même, Dominique Mariette, enseignant à la retraite et qui, lors de ces élections législatives, sera le candidat titulaire de lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. On ne le répétera jamais assez. Et donc maintenant, je passe la parole à Nathalie.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, le Conseil constitutionnel a enregistré 593 parrainages pour ma candidature. Je suis donc candidate. Mais attention, attention, pas trop d'enthousiasme quand même, hein, parce que je resterai une petite candidate. Aux yeux des médias. Vous savez que, mis à part les 15 derniers jours où il y a une stricte égalité du temps de parole, les grands médias vont continuer d'organiser deux campagnes électorales parallèles. Hein, la campagne avec les grands candidats qui ont la possibilité de s'exprimer en long, en large, en travers pendant des heures, et puis une campagne avec les petits candidats qui n'auront droit qu'à quelques bribes d'interviews par-ci, par-là. Alors c'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données par les sondages. Alors quand personne ne sait que vous êtes candidate, c'est un peu compliqué. Et puis autant dire que chaque chaîne peut... Autant dire que chaque chaîne peut à peu près faire ce qu'elle veut. Et les multimilliardaires comme Bolloré, Bouygues ou Drahi, qui ont acheté des chaînes de télé et des journaux, peuvent donc se payer des campagnes électorales sur mesure. Ils peuvent décider quel candidat aura ou pas la parole, et ils ne s'en privent pas. Et je dois vous dire que ce n'est pas beaucoup, beaucoup mieux sur les chaînes publiques et sur les radios publiques. Alors oui, le système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas non plus s'en étonner. Les travailleurs qui manifestent ou sont en grève ne sont pas mieux traités. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent leur pouvoir. C'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on peut vérifier qui est véritablement dans le système et qui ne l'est pas. Alors, nous, d'un certain côté, pour nous, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage, nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste, et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe à cette élection présidentielle, ce n'est pas pour jouer le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi, n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et dans ces élections, eh bien, nous pouvons faire avancer ce combat. C'est pourquoi j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle dans cette élection à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière. Les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Et cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue. Et en plus de ce casting renouvelé, on a droit à des rebondissements avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, des divisions et bien sûr des démêlés judiciaires. Alors oui, cette campagne, avec ses coups de théâtre, ses hommes politiques mis en examen, a de quoi surprendre, mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique à bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité tous ceux qui gouvernent depuis des décennies et elle a eu raison du ronron de l'alternance gauche-droite. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa prochaine majorité parlementaire. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées malgré toutes ces péripéties politiciennes. Parce que le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds. Car lorsque vous regardez bien, tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Prenez Fillon, le premier. C'est le porte-parole par excellence du grand patronat. Et d'ailleurs, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Parce que son arrogance et ses leçons de morale du genre « faites ce que je vous dis, parce que je fais », eh bien c'est exactement l'arrogance et le mépris de la bourgeoisie pour le monde ouvrier. Quant à son programme, bah c'est très simple. Il a épousé l'intégralité de la politique du MEDEF. C'est la fin des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Autrement dit, il déclare la guerre aux travailleurs. Mais comme Fillon, de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche, c'est la remise des bus sur les routes, c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés, sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres. Mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande pendant 10 ans. Avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'impôt sur la fortune, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et de l'autre la suppression de postes de fonctionnaires. Pour Macron, c'est 120 000. L'augmentation de la CSG, 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Alors évidemment, il est peut-être un petit nouveau, mais lui aussi, il est dévoué corps et âme à la bourgeoisie. Quant à Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Elle aussi prévoit des suppressions d'emplois dans la fonction publique et des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Et où veut-elle prendre l'argent? Eh bien, sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuit la guerre ou une dictature féroce. Elle veut s'en prendre à des travailleurs, parfois ici depuis 5 ou 10 ans, en taxant leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. Autrement dit, elle veut s'en prendre à des ouvriers, à des intérimaires, à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Et elle brandit exactement la même politique que celle du grand patronat, c'est-à-dire diviser pour régner. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, aux parents qui est tenté par le vote Front National, eh bien nous pouvons dire, laisse ce vote aux racistes, laisse ce vote aux grenouilles de bénitier, aux nostalgiques de la France à papa, laisse ce vote à tous ceux qui accusent les chômeurs d'être des assistés ou qui pensent que les ouvriers ne travaillent jamais assez, mais toi, vote pour tes intérêts de classe, vote pour ton camp. À gauche, Hamon veut faire entendre une toute autre musique. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Alors aujourd'hui, au départ, il parlait de 750 euros. Aujourd'hui, il ne parle plus que de 600 euros. Mais c'est pas grave, la petite musique continue. Hein, et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de toucher même 750 euros par mois pour compenser le fait de ne pas avoir de boulot ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois, il n'y a que chez les Fillon, chez les Le Pen, qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Mais du côté du monde du travail, ça ne se passe pas comme ça. Et position significative, Hamon évoque la réaffectation et le conditionnement du CICE, parce que, dit-il, ces 41 milliards ont été mal dépensés. Mais il ne demande pas aux entreprises qui ont empoché l'argent de rendre des comptes. Ce serait pourtant logique. Quand il y a eu tromperie sur la marchandise, on demande bien à être remboursé. Eh bien ça, Hamon ne l'imagine pas. Et pourquoi ? Parce qu'il ne veut rien imposer au grand patronat. Il ne veut pas le contraindre à quoi que ce soit et surtout pas à payer. Et en cela, il est le digne héritier du Parti socialiste. Alors, quand on appartient au monde ouvrier, voter pour Fillon, Le Pen, Macron ou Hamon, c'est voter contre son camp, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Aujourd'hui, tous ces candidats s'opposent, ils se combattent. Mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors, leur politique consiste à les amadouer, à les bichonner. Et il faut toujours que les travailleurs se plient et acceptent de faire les quatre volontés patronales. Eh bien, je suis candidate pour dire exactement l'inverse. Je suis candidate pour affirmer que les forces vives du pays, c'est nous, les travailleurs. La bourgeoisie, les actionnaires, les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnaud, les Michelin, les Peugeot, les Dassault, sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les conducteurs de train, sans les pilotes d'avion, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs usines, leurs ateliers, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris ces produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes de cette classe capitaliste. « Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui louchent vers le Front National, il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut que le camp des travailleurs se mette en avant ses intérêts, sa politique, son programme. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite, tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commande assurée. Mais nous, travailleurs, salariés, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot, il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Prenez Peugeot Citroën. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards de bénéfices chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015, et en supprime encore plusieurs centaines. C'est la même chose dans le secteur bancaire, dans les assurances, dans les médias. Les grands groupes capitalistes sont de grands fabricants de chômeurs. Donc, la première des choses, c'est de les empêcher de nuire. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Eh bien, il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui se passe dans tous les grands groupes capitalistes avec leur plan de compétitivité qui impose des heures supplémentaires obligatoires et des samedis travaillés. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs que l'on comptabilisera, mais 7, 8, 9 ou 10 millions de chômeurs. Alors oui, il faut lui imposer des mesures contraignantes. Et puis regardez aussi les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite? Regardez l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants pour ce qui est des logements? Il en manque 1 million, accessible à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans notre société. Et donc, il y a autant d'emplois à créer en face. Alors, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Et j'insiste là-dessus, parce que le chômage, c'est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur, parce qu'il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme et il pousse à la compétition entre travailleurs. C'est aussi de là que naît la peur de l'autre, le rejet de l'autre. C'est de là que naît la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible d'augmenter le SMIC pour les entreprises. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Non, il faut qu'on se la paye nous-mêmes si on veut une augmentation. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas, comme elle dit, créer de difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas, elles ? Eh bien, Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, il faut l'augmentation des salaires. Et la CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, parfois davantage. Pour le gaz, l'électricité, l'eau, c'est 50 ou 100 euros par mois. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut encore faire face aux traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et puis après tout ça, ben, y a encore les impôts, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. Et à la fin, eh bien, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, c'est encore plus difficile. Alors oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien je l'ai expliqué tout à l'heure, ils doivent être transformés en salaire parce que tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Ces 1 800 euros par mois ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 150 euros net, était de 1 euros net. Déjà, à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. Mais en 10 ans, cela veut dire que le SMIC net a augmenté de 15%. Savez-vous de combien ont augmenté les salaires des PDG ? De 65% en 10 ans. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation de 300 euros. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa facture d'électricité ou d'assurance pour voir que avec celle de l'année précédente, donc, pour voir que les prix augmentent. En réalité, entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. La société est riche, elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, accumulée au détriment de générations de travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien la loi est faite pour les couvrir. Prenez le groupe Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre et que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer. Des dizaines de magasins et que 2000 emplois sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Parce qu'un gérant d'un magasin y est payé 1 400 euros net et tous les autres employés sont autour du SMIC. Ce qui a tué ce groupe, ce sont les fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui ont forcé les différentes enseignes à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît ? Eh bien, de ces mêmes fonds, à des taux d'intérêt de 11, de 12%. Eh bien, si les salariés de Vivart avaient connu toutes ces manœuvres financières, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et pour se défendre. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG, parce qu'elle le prépare, elle le tape et elle l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent, et ils le craignent d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut supprimer ce secret des affaires. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre les travailleurs et le patronat en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Parce qu'il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Nous saurions à quoi nous en tenir, nous pourrions anticiper, nous organiser face aux attaques patronales et même prendre l'initiative pour imposer nos intérêts. Et puis, en ayant accès aux vraies comptabilités, eh bien, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte et on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'embaucher dans tous ces grands groupes capitalistes et d'augmenter les salaires. Alors, voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins et c'est d'abord et avant tout des objectifs de lutte collective. Et oui, c'est le plus radical. Parce que, contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Le premier tour de cette élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans cette direction-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois, et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Eh bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin de nous exprimer, d'exprimer nos intérêts à un moment donné. Nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence contre la politique anti-ouvrière relayée par les gouvernements de gauche comme de droite. Cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et faites voter autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque aujourd'hui tant à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1300 euros et les vraies 35 heures. Eh bien, c'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable, parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande l'avait fait superbement en 2012. Souvenez-vous, le discours du Bourget. Mais le problème, c'est de dire si l'on est prêt ou pas à renverser la finance, c'est-à-dire à l'exproprier. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie. Pas son pouvoir sur la propriété, pas sa propriété privée sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Dupont-Aignan et avec Le Pen, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Le pouvoir reviendrait au peuple. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc. C'est Bettencourt, la reine des cosmétiques. C'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est exploité, quand on appartient au monde ouvrier, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou à l'échelle de l'Europe. Quand on appartient au monde du travail, eh bien on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir sur nous de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire complet ou pas, qui a le pouvoir de fixer nos horaires, nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études? En fonction de ses envies, de ses passions? Non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Et puis, parler de souveraineté, eh bien, c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs de France et la bourgeoisie de France. C'est brouiller les consciences et c'est une façon de détourner les travailleurs de leur combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète, émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système, parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes, des luttes collectives, qui cherchent un raccourci électoral en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribuer à élever la conscience des travailleurs, la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant et à l'inverse, de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour le porter à la présidence de la République, eh bien notre campagne nous aidera, nous, à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, le vote pour ma candidature sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas et pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Ils ont réquisitionné tous les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, sans doute le plus important, ce pouvoir révolutionnaire a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant, en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle. Il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait aussi le lit de cette délinquance et du fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés, que l'on oppose à des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, les principaux candidats sont tous d'accord. Il faut des frontières toujours plus hautes, toujours plus étanches, et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et par leurs bombes. Ils la fabriquent ici par le chômage et par la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer avoir la retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploités, nous devons avoir conscience que nous sommes tous des migrants potentiels. Et il ne s'agit pas que d'une question de solidarité. Il en va de notre intérêt collectif. Notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient accaparées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toutes nationalités, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation Alors loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien, il représente la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation, mais aussi débarrassée du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Les travailleurs sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques. Parce qu'il en va de la préservation de l'environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses. Mais au pouvoir, ils sont bien incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, on parle pour ne rien dire. Alors oui, bien sûr, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie. Ils illustrent la nécessité de gérer collectivement les immenses moyens de production dont nous disposons et de les planifier. Et cela, seuls les travailleurs peuvent le réaliser. Alors voilà tout ce que représente pour nous le camp des travailleurs, c'est-à-dire la perspective d'une société communiste, la perspective d'une société réellement humaine. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Et aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers ? Bien sûr que non, ils sont composés de travailleurs, de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles ou qui galèrent au chômage. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui revendiquent pour certains d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était dans la rue et dans les manifestations. Il y avait beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, dans les usines. Eh bien, il faut que cette classe ouvrière s'exprime sur la scène politique dans ces élections. On nous met dans la tête que l'élection doit servir à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir ? Eh bien, dans cette élection, on nous demande la même chose. On nous demande d'élire le prochain président de la République qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui baissera nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de départager les principaux candidats, de chercher à élire l'un plutôt que l'autre. L'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques et de rassembler le camp des travailleurs autour de cela. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012 ? Il faudrait recommencer avec un autre. Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire de façon à se protéger est également un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec les luttes collectives. Quant à s'abstenir, Ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre, et puis c'est déserter, parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester, parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne, est un geste à la portée de tous, et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Au contraire, quand on est minoritaire, la moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes, c'est vrai, à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont faites ainsi, il fallait un nom, et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne personnelle ou individuelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai, comme je pourrai sur les plateaux de télé, à chaque fois que l'on me donnera la parole. Vous pourrez voir, si vous avez encore l'énergie ce soir, sur « On n'est pas couché », comment je me suis battue. C'est vers 1h15 du matin à peu près, ça vous laisse le temps de faire la fête ici et de rentrer tranquillement. Bon, ceci dit, ce que je veux dire quand même, c'est que justement une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, eh bien elle permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, il y a plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions et c'est déjà quelque chose de très important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a aussi tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de politique ou de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot, et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre et leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ses idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, vous l'avez compris, rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Et pour que ce soit une bonne campagne, pour que ce soit une campagne réussie, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne, il faut que ce soit votre campagne. Pour conclure, juste un petit effort de projection dans l'avenir. Au lendemain de l'élection, en mai prochain, qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Eh bien, nous irons au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confrontés au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition, mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui préparera, qui nous préparera le mieux aux luttes que forcément nous aurons à mener.
Donc ce meeting de campagne se termine. Merci d'y être venus nombreux. Comme l'a dit Nathalie Arthaud, eh bien, aidez-nous dans cette campagne en discutant autour de nous, en prenant des brochures, des tracts et surtout en venant le 26 mars prochain, dimanche dans 15 jours, au Dock de Paris, à la porte de la chapelle, sur la commune de Saint-Denis, au grand meeting à l'échelle du pays de la campagne de Nathalie Arthaud, qui aura lieu donc le dimanche 26 mars à 15h. Et bien sûr, pour terminer ce meeting, vous l'avez compris, sur le signe des travailleurs d'ici et d'ailleurs, nous allons reprendre le grand chant du mouvement ouvrier, l'International. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim.